ressuscité. À toi la victoire.
Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans la maison de Dieu en esprit avec l'Église universelle et aussi virtuellement avec vous qui nous avez rejoints sur le site de l'Église protestante de Blogny. J'espère que vous vous portez tous bien ainsi que vos proches, vos amis et vos connaissances. Épître de Philémon, 3e verset. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Prions. Ô Dieu, nous voici réunis pour passer un peu de temps en ta présence. Bien que tu sois toujours avec nous, nous voulons nous mettre à part pour partager ce moment de méditation et de réflexion. Bien que séparés de nos amis, frères, sœurs, parents et tous ceux que nous aimons, nous pouvons être unis dans la prière que nous faisons monter vers toi. Garde-nous sous ton aile et que ta gloire rayonne malgré l'agitation du monde entier. Renouvelle ta paix en ton Église universelle, réunie au nom de Jésus. Amen. Actuellement, chaque jour qui passe nous fait regarder autour de nous. Si tout le monde a son masque, si chaque personne qui nous précède s'est désinfecté les mains, si tous ceux que nous avons côtoyés gardent leur distance. Ah, ce minuscule qu'on ne voit pas, qui nous a accaparés, qui nous a enfermés, qui nous conditionne. Il brave nos scientifiques, détruit la santé mentale de nos institutions médicales, et sape le moral sans un cri, sans un geste, sans le moindre scrupule. Il est même arrivé à priver le monde de sa fin d'année et de ses fêtes. Ah oui, les fêtes de fin d'année. Ah, Noël. La seule chose qui nous fait un peu penser que nous y arrivons, outre les revendications pour ouvrir les magasins et les quelques décorations extérieures, c'est que chaque jour à la télé, il est programmé plusieurs films de Noël. Tous se déroulent dans un cadre bon enfant, avec plein de guirlandes lumineuses, dans des paysages de neige, et la fin, heureusement, est toujours joyeuse, avec la magie de Noël. Pourtant, il y a 2000 ans, c'est pas vraiment ce qui s'est passé. Dans quelques jours, nous allons nous souvenir de la naissance de Jésus, parce que Noël est le jour qui fut attribué à cet événement, qui va changer la face du monde et faire débuter un nouveau calendrier. Quand ces jours dits de l'Avent, nous puissions nous souvenir qu'il nous est annoncé la première venue du Fils de Dieu sur terre. Sa mission est de nous faire retrouver la joie de vivre dans la paix par une réconciliation avec notre Créateur et Père Céleste. Dans l'attente, je vous invite à vous joindre au chœur de la mission Timothée qui nous chante « Les anges dans nos campagnes ». Je passe maintenant la parole à Paul pour nous apporter le message que Dieu lui a mis sur le cœur. Intercession ou supplication? Prions. Notre Père, merci pour ta parole qui est la vérité. Merci pour ton regard sur nous. Mets ta main sur notre frère Paul qui va nous emmener dans ta parole. Aide-nous à la mettre en pratique. Éclaire notre esprit et notre intelligence par ton Saint-Esprit. Et qu'à toi revient toute la gloire par le nom de Jésus. Amen.
Chers frères et sœurs de Blény, je suis content de pouvoir vous retrouver par ce moyen. J'ai eu à cœur de vous partager quelques idées sur l'importance de l'intercession. Nous lisons dans Ésaïe, au chapitre 59, les versets 15 et 16. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors, j'ai longtemps cru qu'intercéder, c'était supplier, que c'était une forme de prière très forte. Et quelqu'un m'a demandé, c'est quoi intercéder ? Et j'ai eu du mal à donner une définition. Donc, je me suis tourné un peu vers le dictionnaire et je vois que Robert dit que intercéder, c'est intervenir, user de son influence en faveur de quelqu'un, prier, réclamer, implorer Dieu, se faire l'avocat de quelqu'un. Larousse dit « Intercéder, c'est intervenir pour obtenir le pardon de quelqu'un. » Le petit Larousse dit « Intercéder, c'est intervenir en faveur de quelqu'un. » Et d'autres dictionnaires, comme le Webster, par exemple, disent « Intercéder, c'est s'interposer, c'est utiliser son influence en faveur de quelqu'un. » Et il ajoute entre parenthèses sans attendre d'un retour. Donc l'intercession n'est pas seulement prier, puisque Dieu lui-même intercède, mais c'est vraiment s'impliquer, c'est intervenir par la prière ou par la négociation, souvent auprès de personnes influentes ou auprès de Dieu. Le mot hébreu employé ici pour intercéder, c'est paga. Ce verbe est employé 46 fois dans l'Ancien Testament. Le mot correspondant en grec est entouchano et est employé 8 fois dans le Nouveau Testament. Donc ce passage nous dit que Dieu cherche un homme pour prier pour les autres et il n'en trouve pas, ce qui l'étonne. Est-ce que les intercesseurs sont devenus rares? Et lorsque nous consultons la parole de Dieu, nous voyons qu'il y a quand même quelques exemples remarquables dans la Bible. Je pense par exemple à Job, qui, malgré son épreuve, sa douleur et ses amis, qui ne le comprennent pas, eh bien, il prie pour eux et Dieu approuve cette prière. Ça se trouve dans Job 42, le verset 10, où il est dit « L'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis. » Nous connaissons tous ce récit d'Abraham quand il intercède pour Sodome et Gomorre. Quand il apprend que ces deux villes vont être détruites par Dieu dans Genèse 18. Combien de fois il est dit que Moïse discute avec Dieu, déjà devant le buisson ardent. Et comme Dieu lui demande d'intervenir auprès de Pharaon, et plusieurs fois, il doit intercéder pour Israël à cause de leur murmure. Et c'était très grave lors du veau d'or dans Exode 32. Il est remarquable aussi de voir que Samuel, lui, considère que le manque d'intercession est un péché contre l'Éternel. Il est dit dans 1 Samuel 12, le verset 25, « Loin de moi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous, je vous enseignerai le bon et le droit chemin. » Samuel, dont l'intercession était très intense, il est dit qu'il cria vers l'Éternel toute la nuit. Nous avons encore l'exemple de Daniel qui montre une prière d'une grande intensité. Au chapitre 9 et 10 de Daniel, où il est dit « Moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil, je ne mangeai aucun mets délicat, il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche, je ne m'oignis point. » Et ensuite, Dieu va se révéler à lui d'une façon magnifique, dans une vision extraordinaire, avec ces mots au chapitre 10, le verset 12. « Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. » On pourrait encore citer ce passage dans Ézéchiel, au chapitre 22, le verset 30, où Dieu parle un peu comme à Ésaïe. « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve pas. » Alors, dans le Nouveau Testament, nous avons l'exemple de Paul. Quel intercesseur! Dans chaque épître, il parle de sa vie de prière. Sa prière est comme un travail d'accouchement. Il prie sans cesse, combat jour et nuit. Il intercède toujours pour les autres, comme il écrit aux Philippiens depuis sa résidence surveillée où il est prisonnier. Ce que je demande dans mes prières, c'est que l'amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Philippiens 1, 9. Et au verset 13, il donne le résultat de sa vie de prière et en parle. Dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et aussi, il dira à Timothée qu'il faut prier et intercéder pour ceux qui dirigent le pays. Il dit dans 1 Timothée 2, 1 à 3, « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant notre Sauveur. » Il y a aussi ce bel exemple d'Épaphras dans Colossiens 4, 12 et 13. « Épaphras ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon comme des hommes faits, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous. » Ce qui est remarquable aussi dans la parole de Dieu, c'est qu'il y a aussi des femmes. Il y a l'exemple de Anne, la maman du prophète Samuel. Cette histoire se trouve dans 1 Samuel 1, où est décrit une magnifique intercession de Anne en faveur d'un problème dont elle souffre. Et Élie, le sacrificateur, la prenait pour une femme ivre, au verset 15. Et elle dira, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je répandais mon âme devant l'Éternel. » Il y a dans Luc une autre Anne, Anne la prophétesse, qui est mentionnée dans Luc 2, au verset 37 et 38, dont il est dit qu'elle est restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple, elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière, et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Et à d'autres femmes qui sont mentionnées, par exemple, parmi les 120 qui ont intercédé durant 10 jours, en faveur de la Pentecôte, dans Acte 1 et verset 14, il est mentionné les femmes, dont Marie, mère de Jésus. Il y a aussi une autre femme, certainement remarquable, qui est mentionnée dans les Actes, Lydie, la marchande de pourpre que Paul avait trouvée à Philippe, en Macédoine. Il la trouve au lieu de prière, près de la rivière, hors de la porte. Acte 16, le verset 13. Elle était la première convertie européenne. On peut trouver quelques caractéristiques de l'intercession d'après les exemples de la Bible. Premièrement, ceux qui intercèdent changent le cours de l'histoire. Remarquez que tous ces exemples que nous avons cités sont venus à des moments charnières dans l'histoire. On peut dire que leur intercession a changé l'histoire. Abraham représente le commencement du peuple hébreu. Et Moïse est à la naissance d'Israël. Anne est à l'origine du prophétisme avec Samuel. Daniel signifie le retour de l'exil. Anne, la prophétesse, c'était à la naissance du Messie. Marie et les femmes dans la chambre haute, c'est l'origine de l'Église. Lydie, c'est le début de la mission en Europe. L'apôtre Paul donne naissance au christianisme mondial, on peut dire. Donc, intercéder n'est jamais vain. On pourrait citer de nombreux exemples d'intercession, même après la parole de Dieu, dans l'histoire de l'Église. John Wesley, par exemple, était un grand intercesseur. Il avait une ténacité et son influence était très importante. Il a réussi à abolir l'esclavage en Angleterre et dans les colonies. Le comte Zinzendorf était fervent adepte de la prière. Il est à l'origine d'une réunion de prière en Moravie qui a duré 100 ans. Sans interruption, et qui a soutenu la vague missionnaire de l'époque. Deuxièmement, on voit l'importance du temps, de savoir prendre du temps, parce que tous ces gens, on peut dire qu'ils étaient déjà très occupés. Ils pouvaient très bien dire « on n'a pas le temps à s'investir aussi sérieusement ». Pourtant, Dieu a pu les employer parce qu'ils ont pris le temps de consulter Dieu. Et le fardeau que Dieu leur a donné, ils ont pris le temps de s'y consacrer et ils se sont déchargés sur Dieu de ce fardeau. Moïse en est un exemple vraiment magnifique après l'incident du veau d'or, parce que Dieu dit dans Exode 32, le verset 7, à Moïse, « Va, descends, car ton peuple, que tu as fait sortir d'Égypte, s'est corrompu. » Ça, c'est étonnant que c'est Dieu qui parle à Moïse et qui dit à Moïse que c'est ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte. Et Moïse va renvoyer la balle à Dieu. Il va lui envoyer un magnifique passing shot, on peut dire. Dans Exode 32, le verset 11, il répondra « Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte ?» Alors, Dieu ne nous a pas créés pour porter des fardeaux à demeure. L'intercession, c'est un aller-retour. Tu reçois et tu redonnes. Dieu permet qu'on se libère du fardeau qu'on reçoit. Et ce que Pierre dira dans 1 Pierre 5, 7 est valable tout à fait aussi pour notre intercession. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Et Moïse avait dû apprendre cela. Comme il a dû apprendre à déléguer des responsabilités sur le conseil de son beau-père Jéthro dans Exode 18. Et il est normal que l'intercession prenne du temps. Ce n'est jamais une petite prière vite faite. C'est ainsi que Moïse a pris du temps, déjà lors de son appel devant le buisson ardent. cette discussion qu'il a eue avec Dieu. Et Dieu, lui aussi, prend le temps avec Moïse. Et cela est magnifique. On peut dire qu'Abraham aussi en est un exemple dans Genèse 18, quand il intercède avec Dieu au sujet de Sodome et Gomorre. On voit que cette intercession est un véritable troc, une véritable négociation. Abraham négocie le nombre de justes dans sa ville et il passe de 50, mais il n'y a pas 50. À 45, mais il n'y a pas 45. Puis 40, 30, 20, 10, il n'y a pas 10 justes. L'histoire est précédée par la visite de deux messagers. Et ces messagers annoncent l'intention de Dieu. Puis ils partent. Mais Abraham n'a pas fini. Et il est dit au verset 22, « Les hommes s'éloignèrent, mais Abraham se tenait encore en la présence de l'Éternel. » Il se tenait encore dans la présence de l'Éternel. Alors quand on prend le temps dans le dialogue avec Dieu, on reçoit réponse, on reçoit révélation. Et au verset 17, l'Éternel dit « Cacherai-je à Abraham ce que je veux faire ?» Alors, pour nous là, c'est une grande leçon. Les piétistes avaient comme slogan « Il nous faut cultiver la présence de Dieu. » Comme une culture qui prend du temps et qui nécessite des soins. Il nous faut cultiver la présence de Dieu. Donc, nous comprenons que intercéder, c'est plus que simplement prier. Il y a une discussion là vraiment admirable entre Dieu et Abraham. Et chaque fois, Abraham a le sentiment qu'il va trop loin. Il dira au verset 27 et au verset 32, « J'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre, que le Seigneur ne s'irrite pas. » Nous avons là une véritable intercession pour sauver Sodome. Abraham présente ses arguments comme un avocat présenterait son réquisitoire. Et sur quelle base est-ce qu'il argumente ? Sur la base de ce qu'il sait de Dieu, sur la connaissance qu'il a de Dieu, du caractère de Dieu, des attributs de Dieu. Il sait que Dieu est juste. Et il ne peut pas juger le juste et le méchant avec la même punition. Verset 23. « Feras-tu périr le juste avec le méchant ? Loin de toi, cette manière d'agir. » Comme pour dire, ce n'est pas comme cela que je te connais. C'est impossible. Dieu est juste et il aime la justice, comme dira aussi un psaume, psaume 11, le verset 7. Abraham avait pris le temps pour connaître Dieu. Pourtant, il a vécu avant l'Écriture. Il n'y avait pas la Bible. Et il n'y avait pas le sacrifice de Christ. Il n'y avait pas le don de la plénitude de l'Esprit. Et connaître quelqu'un prend du temps. Abraham avait pris le temps de connaître Dieu. Mieux je connais Dieu, plus forte sera mon intercession. Abraham réussira à descendre de 50 justes à 10 justes. Alors ça, c'est vraiment une force exponentielle par l'intercession. Il est dit dans 1 Samuel 18, le verset 7, que Saül en chasse 1000, mais avec David, ils en chassent 10 000. Jésus parle aussi de l'efficacité du commun accord si deux ou trois intercèdent en son nom. Matthieu 18, 19, 20. C'est très efficace et Satan le sait, c'est pourquoi il nous décourage toujours à prier. Il nous invente même des excuses pour ne pas prier. Christ intercède. Déjà dans l'Ancien Testament, c'est dit, Ésaïe 53, 12, « Il a intercédé pour les coupables. C'est le verbe paga. Romains 8, 34 dit « Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède en tout chanot pour nous. » Jésus peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui étant toujours vivant pour intercéder en tout chanot en leur faveur. Hébreux 7, le verset 25. Et nous voyons que l'intercession de Christ n'est pas seulement la prière, mais c'est l'action. Il est vivant, il veille pour rendre son sacrifice efficace pour tous ceux qui s'approchent de lui. L'Esprit aussi intercède. L'Esprit intercède à travers nous, même par des soupirs inexprimables, parce que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Romains 8, 26 et 27. Intercéder, c'est construire une clôture. C'est plus que prier, c'est intervenir, se tenir sur la brèche, c'est boucher le trou, réparer la muraille. Comme le dit Ézéchiel 22, 30, je cherche un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi, en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Intercéder, c'est donc prendre un risque. C'est une implication de toute la personne. C'est y mettre tout son cœur, son temps, sa motivation. On ne peut pas intercéder à la légère. C'est utiliser l'amour de Dieu, le fruit de l'Esprit, c'est utiliser l'amour de Dieu en nous. Et ça peut aller très loin. Intercéder, c'est donc construire une clôture de protection. Les Hébreux avaient une ancienne loi qui disait « Quand tu construis une terrasse, construis un muret de protection tout autour pour préserver les petits de la chute. » Combien l'intercession est utile pour protéger nos enfants des chutes. Le mot « paga » dans l'Ancien Testament est parfois utilisé pour exprimer arriver dans un lieu sûr, un lieu sécurisé. Jacob en donne l'exemple dans Genèse 28. À cause de Ésaïe, il est en fuite et c'est l'incertitude. Mais la bénédiction de Dieu l'accompagne et il est dit au verset 11, il arriva dans un lieu où il passa la nuit. Le mot arriva ici, c'est paga. Ça veut dire il arriva dans un lieu sûr, sécurisé. Et la présence de Dieu était réelle, car il eut en cet endroit un rêve magnifique, une échelle qui reliait ce lieu avec le ciel et les anges qui montent et qui descendent entre lui et Dieu. Et il est dit à partir du verset 16, Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit « Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. » Il eut peur et dit « Que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. » Et il donna à ce lieu le nom de Bethel, qui veut dire « maison de Dieu ». L'intercession fait d'un lieu une maison de Dieu. On peut dire aussi que l'intercession est un combat. Il y a la notion de combattre dans le verbe paga, parce que ce verbe est employé comme terme de combat, même de guerre. Quand il s'agit de battre, de combattre et d'éliminer, eh bien, le verbe paga est encore employé, comme dans Juges 8, le verset 21, lorsqu'il s'agit de Gédéon et qu'il est dit que Gédéon se leva et tua Zébac et Tsalmouna. Le verbe tuer ici, c'est le verbe paga. Donc intercéder, c'est combattre. Bien sûr, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre des dominations avec des armes spirituelles qui nous sont révélées dans Éphésiens 6. À ce sujet, il y a une belle citation de Billy Graham lorsqu'il dit « Pour prier, tu peux joindre les mains, tu peux fermer les yeux et tu peux te mettre à genoux. Mais quand tu veilles, il vaut mieux prendre tes armes spirituelles en main. Il vaut mieux ouvrir tes yeux et te tenir debout. » Intercéder, c'est être un combattant, un veilleur, un gardien, une sentinelle. À l'époque, on mettait des sentinelles pour surveiller les récoltes, parce que l'ennemi cherchait à saboter la récolte, mais avec les veilleurs, la récolte réussit. Les sentinelles étaient placées aux portes afin de protéger la ville. Il y a des portes et fenêtres par où l'ennemi cherche à entrer et cherche à influencer. Alors on peut dire aussi que intercéder, c'est mettre au monde. Il est dit au sujet de Jésus, toujours dans Ésaïe 53, le verset 10, « Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité. » Et l'intercession de Paul, c'est la même idée pour ceux qui sont nouveau-nés spirituels. Eh bien, c'est comparé à des douleurs d'enfantement. Quand il dit dans Galates 4, 19, « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Voilà son intercession. C'est un véritable combat. Et je termine avec une dernière idée. C'est que intercéder, c'est collaborer avec Dieu. Intercéder, c'est vivre les projets de Dieu. C'est travailler avec lui. Il cherche un homme pour intercéder avec lui. Et il est dit dans Matthieu 11, le verset 29, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Donc le fardeau que Christ porte, il le partage avec nous, et le fardeau que nous portons, nous le partageons avec Christ. Et cela est vraiment merveilleux. Donc l'intercession, c'est un travail, oui, mais le Seigneur travaille avec nous. Prions. Ô Seigneur, ta parole est une lumière sur notre sentier. Tu nous invites à collaborer avec toi, à travailler, intercéder ensemble. Oui, Seigneur, nous voulons répondre oui à cette invitation. Tu nous appelles et nous te disons, Seigneur, nous voici pour t'obéir, nous voici pour faire ta volonté. Nous serons les intercesseurs que tu cherches. Viens au secours de notre manque de foi, viens au secours de notre manque de temps, notre manque d'implication. Ô Seigneur, donne-nous un cœur pour notre génération. Un cœur pour notre époque. Accorde à ton peuple une grande victoire. Nous te prions en ton nom, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen.
Merci Paul pour ce message. Merci à tous ceux qui permettent que nous puissions être parmi vous via les enregistrements. Je vous rappelle notre rendez-vous de prière à la maison tous les mardis de 19 à 19h30, notre synergie avec les communautés de Herstal-Schorath, et à dimanche prochain, si Dieu le veut. Que la grâce et la paix de Jésus, notre Seigneur, vous accompagnent. Amen.